des sciences.
On commence avec le premier sujet de ce journal. Mardi, CEIS, le sismomètre posé à la surface de Mars, a détecté un premier signal sismique.
Le premier tremblement de Mars. On attendait ce signal depuis le 26 novembre 2018, le jour où la sonde InSight a déposé CEIS sur la planète rouge. CEIS, c'est le sismomètre français de haute précision. Il a pour mission de mesurer l'activité interne de la planète. Depuis 2 mois, il enregistre un grand nombre de vibrations associées au vent, à la pression ou même à des tornades martiennes. On a accumulé la signature de tous ces événements. Mais là, on a quelque chose de complètement différent. C'est un petit séisme de très faible magnitude. Mardi, la NASA a diffusé un enregistrement. On l'écoute. Alors, ce qui est important, c'est que même s'il ne s'agit que d'une petite secousse, là, on a la certitude que c'est un tremblement de Mars, c'est-à-dire que le sol a vibré. On ne connaît pas encore son origine, cela pourrait être l'impact d'un astéroïde, par exemple. Et lors d'un séisme, des ondes se propagent à une certaine vitesse dans les objets. Et c'est en comprenant la vitesse de propagation de ces ondes qu'on peut en savoir plus sur l'intérieur de Mars. Ce premier signal sismique nous donne déjà des informations sur la planète. Philippe Lognonnet est chercheur de l'Institut de physique du globe et responsable scientifique de l'expérience CEIS depuis 2010.
Le signal fait à des accélérations de l'ordre du milliardième de la gravité martienne, quasiment le milliardième de la gravité terrestre. Donc il est complètement imperceptible. C'est un séisme qui s'est propagé dans les partie superficielle de Mars, à quelques kilomètres, peut-être 5 kilomètres de profondeur, et qui nous donne déjà énormément d'informations sur les zones où les ondes se sont propagées, c'est-à-dire ces 5-10 premiers kilomètres de la côte martienne. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a très peu d'atténuation, sur Terre, on sait que l'atténuation vient surtout de l'eau liquide, et donc ça veut dire que dans ces premiers kilomètres de Mars, on a des roches qui sont très sèches. Peut-être qu'il y a de la glace, mais en tout cas, elles sont très sèches. Deuxième chose, c'est plus les séismes sont gros, plus ils vont nous donner de l'information en profondeur parce que les ondes vont se propager de plus en plus profond. Là, on a un petit séisme, on a de l'information sur la partie superficielle. Pour les prochains séismes qui seront plus gros, on aura de l'information sur le bas de la croûte, le haut du manteau. Et puis, pour les très gros, on aura de l'information jusqu'au centre de la planète, peut-être pas au centre de la planète, mais au moins jusqu'au noyau.
Donc là, on ouvre à présent la page de la sismologie martienne, mais aussi un nouveau chapitre en planétologie. C'est important d'en apprendre plus sur la structure interne de Mars, parce que cela va permettre de comprendre pourquoi la planète a évolué de cette façon. On va aussi pouvoir comparer son processus de formation avec la planète Terre. Il ne faut pas oublier que Mars est une planète jumelle. Il y a 3,5 milliards d'années, il y avait de l'eau, un champ magnétique, des volcans. Pourquoi ça a disparu? La réponse à cette question se trouve à l'intérieur. Éric Becler est enseignant-chercheur au laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes. Il est scientifique associé de la mission InSight.
On a quand même une planète qui partage beaucoup, beaucoup de choses avec de points communs avec la Terre. Et cette planète, aujourd'hui, semble assez inactive, voire complètement éteinte d'un point de vue énergétique. Elle ne libère plus assez d'énergie pour entretenir son champ magnétique ou pour entretenir sa tectonique, si jamais il y en a une. Donc, c'est intéressant de se dire, est-ce que réellement à l'intérieur de Mars, c'est comme on le suppose, à l'intérieur de, c'est presque semblable à l'intérieur de la Terre, et alors à ce moment-là, pourquoi ça s'est arrêté? Ou finalement, non, c'est deux objets qui sont assez différents, donc ils n'ont peut-être pas la même source, ils ne sont peut-être pas créés comme on le pensait l'un par rapport à l'autre. Enfin, ça peut remettre après en question pas mal de choses, de connaître l'intérieur des corps du système solaire, en l'occurrence d'une planète tellurique. Est-ce que Mars a un noyau? Est-ce que ce noyau est solide? Ou est-ce qu'il est liquide? Alors, noyau, on pense qu'il y en a un, et on imagine qu'il est fait également de fer, comme celui de la Terre, pour produire le champ magnétique qu'il y a eu pendant 1 milliard et quelques d'années. Donc ça, c'est la question. Et question en suspens, c'est qu'on pense que la perte du champ magnétique terrestre est liée au refroidissement de la planète en général et du coup de la solidification de ce noyau. Donc nous, sur Terre, on a une graine qui occupe une bonne partie déjà du noyau terrestre. Cette graine, on pense qu'elle grossit au fur et à mesure des années et dans 4 milliards d'années à peu près, elle remplira en gros tout l'espace qui est aujourd'hui occupé par le noyau liquide et du coup, il y a des fortes chances que le champ magnétique arrête de se produire aussi sur Terre à ce moment-là. Or, si sur Mars, on sait qu'il n'y a pas de champ magnétique, mais qu'on trouve un noyau liquide, ça remet beaucoup de choses en question.
En bref, l'Institut de physique du globe de Paris vient de percer le mystère des secousses géomagnétiques de la Terre. C'est le résultat d'une étude parue dans Nature Geoscience.
Depuis 1978, on sait que le champ magnétique de la Terre évolue brusquement, mais ces secousses magnétiques restaient imprévisibles. Le phénomène vient d'être élucidé grâce au supercalculateur du Grand Équipement National de Calcul Intensif. Les géophysiciens ont pu modéliser et reproduire la succession d'événements qui mènent aux secousses géomagnétiques. Ça représente des millions d'heures de calcul. Une meilleure prédiction du déplacement du champ magnétique terrestre est dorénavant possible.
En bref, toujours, l'hydrure d'hélium, la première molécule à s'être formée après le Big Bang, a été détectée.
Elle s'est formée 100 000 ans après le Big Bang. Elle est composée d'hydrogène et d'hélium et elle est la première liaison moléculaire de l'univers. Elle a participé à son refroidissement. C'est le spectromètre en haute altitude de la NASA qui l'a détectée à plus de 3000 années-lumière de nous. Et cette découverte vient confirmer les prédictions et les hypothèses sur la chimie primordiale de l'univers.
On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Une équipe canadienne développe un nouveau traitement de la maladie de Parkinson par stimulation électrique de la moelle épinière.
C'est une étude pilote qui a obtenu des résultats très intéressants, notamment sur les problèmes des troubles de la marche et de l'équilibre. Ce sont des symptômes qui apparaissent quand la maladie de Parkinson est bien avancée. Ici, ces implants ont produit une stimulation électrique de faible fréquence. Et ils ont permis à des patients malades depuis 15 ans de faire des progrès considérables dans la marche. Certains étaient même immobilisés depuis plusieurs années. Alors pendant 4 mois, puis 6 mois après le retrait des implants, la vitesse de marche, la longueur des pas, la capacité à rester debout se sont améliorées de 50%. Alors, il faut tout de même prendre des précautions, car l'étude ne concerne que 5 patients. Il faut mener une étude plus vaste et plus longue avant de faire des conclusions. Mais néanmoins, ces résultats sont encourageants, car pour le moment, le principal traitement pour corriger les symptômes de la maladie, c'est l'administration de la L-DOPA pour restaurer les concentrations de dopamine sur le cerveau des malades. Étienne Hirsch est directeur de l'Institut Neurosciences et Neurologie à l'INSERM. Pour lui, cette étude ouvre de nouvelles pistes de traitement.
Le problème, c'est lorsque la maladie évolue, eh bien c'est que ces traitements dopaminergiques ne fonctionnent pas très très bien sur ces symptômes. Ça suggère qu'il y a d'autres lésions dans le cerveau, et on sait qu'il y a d'autres lésions qui sont impliquées dans ces troubles de la marche et de l'équilibre. Notre équipe a pu montrer qu'il y avait des lésions dans des neurones qui utilisent un autre neurotransmetteur, qui est l'acétylcholine, dans une région du cerveau qu'on appelle le mésencéphale, c'est entre les hémisphères et puis la moelle épinière, et dans un noyau qui a un nom barbare, qui s'appelle le noyau tegmento-pédonculopontin, et on a pu montrer que chez les patients parkinsoniens avec des troubles de la marche et de l'équilibre, il y avait une lésion forte dans ce noyau-là, et ça explique pourquoi les patients ne répondent pas au traitement dopaminergique. Donc ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont utilisé des électrodes, et ces électrodes, ils les ont implantées dans l'espace épidural, au niveau thoracique, donc pour agir directement sur la moelle épinière. Quelque part, ça consiste un petit peu à bypasser les systèmes de lésions. Il est possible que ça agisse en corrigeant en fait une activité électrique anormale, voire même sur les neurones du cortex cérébral qui vont descendre pour aller commander le mouvement.
En bref, pour la première fois aux États-Unis, l'ADN de 2 patients a été modifié avec le système CRISPR dans le but de les soigner de leur cancer.
L'université de Pennsylvanie à Philadelphie a confirmé avoir utilisé la méthode des ciseaux génétiques. Les cellules immunitaires des patients ont été modifiées in vitro puis réinjectées pour vaincre 2 types de cancers, un myélome multiple pour l'un et un sarcome pour l'autre. Les effets de ces manipulations génétiques sur le génome humain ne sont pas encore connus. Il n'y a pour le moment pas de publication scientifique.
Selon un rapport de l'ONU sur la biodiversité, plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies.
Un de ces rapports de 1800 pages, les 150 experts estiment que nous sommes au début d'une 6e extinction de masse. Les causes de cette grave et rapide crise de la biodiversité, je cite, ce sont l'exploitation directe des ressources, l'intensification agricole, la pollution et les changements climatiques.
Et par ailleurs, selon le World Resources Institute, 12 millions d'hectares de forêts tropicales ont disparu en 2018.
Ça représente la surface du Nicaragua. Sur ces 12 millions d'hectares, plus de 3 millions d'hectares de forêts tropicales primaires sont concernés. Les pays les plus impliqués dans la déforestation sont le Brésil, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, la Colombie et la Bolivie. Ce bilan qui risque de s'alourdir puisque la déforestation en Amazonie a doublé depuis janvier 2019.
Et comme chaque vendredi, on termine avec la rubrique Science improbable. Une étude publiée dans la National Library of Medicine révèle que les barbes des hommes contiennent plus de bactéries que les pelages des chiens.
Alors, cette équipe suisse a prélevé des échantillons de poils de 18 hommes et de 30 chiens. Ils ont comparé les quantités bactériennes et résultat, pour les chiens, seulement 23 d'entre eux présentent une colonie microbienne modérée. Pour les hommes, l'étude note une colonie microbienne élevée pour chacun d'entre eux, sur 18 sur 18, avec même pour 7 cas, la présence de micro-organismes pathogènes dangereux. Bon, messieurs ou mesdames, ce n'est pas une raison pour vous raser la barbe.
Je comprends enfin, en tout cas, pourquoi j'ai une espèce de forme de communauté d'âme avec les Espagnols bretons. Je garderai ma barbe et je me sentirai plus proche des chiens. Merci beaucoup, Natacha, à la semaine prochaine.